Imagination. Une série d'entretiens proposés par Alain Prochian, neurobiologiste, professeur au Collège de France.
Dans la série Imagination, qui est destinée à interroger les rapports entre les artistes et les scientifiques, ce qui les rapproche et ce qui les éloigne, nous recevons aujourd'hui notre quatrième invitée, Madame Bénédicte Savoie, professeure du Collège de France. Bonjour Bénédicte Savoie, vous êtes professeure d'histoire de l'art à la Université technique de Berlin et vous êtes aussi titulaire de la chaire internationale Histoire culturelle des patrimoines artistiques en Europe, 18e-20e siècle, au Collège de France. Vos travaux portent en partie et même essentiellement sur les translocations patrimoniales depuis l'Antiquité. À ce titre, vous avez été chargé par le président de la République avec le professeur Félouine Sarr de l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis au Sénégal, d'étudier les conditions de restitution aux pays africains d'œuvres d'art qui seraient actuellement ou qui sont actuellement conservées dans les musées français. Donc ça, c'est pour dire un petit peu qui vous êtes. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la discussion qu'on a avec vous et avec certains d'autres collègues du Collège de France, où vous mettez la place de l'imagination, et dans ce cas-là peut-être l'imaginaire, hein, pour ce qui est des peuples et des civilisations, dans votre travail, et en quoi vous faites un lien peut-être avec les scientifiques dans ce domaine. Donc nous avons quelques questions, hein. On peut commencer par la première question, puisqu'il s'agit de restituer des œuvres d'art, ce serait restituer de la beauté d'une certaine façon, donc à qui appartient la beauté? Appartient-elle à tout le monde ou à ceux qui l'ont produite, aux ancêtres de ceux qui l'ont produite?
Un grand merci de m'accueillir ici. Alors, vous avez posé beaucoup de questions. Je commence par la première. Je suis historienne de l'art. Alors, la place de l'imagination, de l'imaginaire, me ramène tout de suite à la place de l'image. Quelle place occupe l'image dans une recherche sur les déplacements forcés d'œuvres d'art en temps de guerre ou en temps de domination coloniale ou en temps de dissymétrie économique, etc. Quelle place occupe l'image là-dedans? Bien sûr, on bouge des images, ça c'est une chose, on bouge des objets, mais on montre ces mouvements-là. Et en fait, l'imagination et la représentation d'abord et ensuite l'imagination que suscitent ces images est considérable. Et si vous avez vu Black Panther, le grand blockbuster, le grand film de Marvel montré assez récemment, vous voyez qu'il y a dans ce film, qui est un film de science-fiction, de fiction, et hop, on est avec la science, une image forte, c'est l'image d'un Américain d'origine africaine au musée, devant un objet de musée qui a été pris à l'Afrique pendant la colonisation, et cet homme africain, afro-américain, voit cet objet dans un musée européen, en parle à la conservatrice du musée européenne, lui dit qu'elle se trompe sur l'origine de l'objet, que ce n'est pas tout à fait ce qu'elle croit, puisque cet objet a des pouvoirs extrêmement forts, magiques, qui vont donner toute la trame du film. Donc on est à fond déjà tout de suite dans ça. L'image, l'objet, l'image du musée qui montre ces images, et puis l'imagination qui en découle, le cinéma, la science-fiction et l'imaginaire des peuples qui se nourrit du cinéma et qui se dit, les opinions publiques, nos jeunes qui vont voir Black Panther, soit en Afrique, soit à Berlin où j'habite, comme vous l'avez rappelé, soit à Paris, soit aux États-Unis, nos jeunes qui se disent, mais pourquoi ces objets sont dans ces musées-là? Tout est lié. L'image, l'imaginaire, l'imagination, l'imaginaire à réinventer, tout ça marche ensemble. Et quel est le lien avec les scientifiques? Donc j'évoquais rapidement là, la science-fiction avec ce film, c'est plutôt un clin d'œil, mais le lien avec les scientifiques, c'est que ces déplacements d'objets ont souvent été faits au nom de la science. Alors la science intellectuelle, l'archéologie, les savoirs, mais aussi les technologies. Nous autres, Européens, gardons mieux, sommes mieux technologiquement armés pour garder ces objets qui ailleurs, chez leur peuple d'origine, pourraient être dans de mauvaises conditions, etc., etc. Donc tout est lié, on est dans un très beau, j'allais dire, un nœud de liens qui va dans tous les sens historiques, chronologiques, du très loin de l'Antiquité à notre avenir, et la question des restitutions est la question déjà, la grande question du 21e siècle. Et puis, donc dans le temps, on se déplace beaucoup, et puis dans l'espace, puisque tous les continents sont concernés et tous les continents, c'est-à-dire notre destin commun d'humanité.
Merci. Voilà une réponse, une première réponse. Mais si on doit rendre, c'est parce qu'on a pris. Hein, et on a pris pas dans n'importe quelles conditions. On a pris dans des conditions soit de colonisation, mais aussi de guerre. Les musées français, ceux qui ont été montés, en tout cas du temps, par exemple, du Premier Empire, hein, sous Napoléon Ier, ont amassé des biens indépendamment des conditions de conservation qu'on pouvait en avoir. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a l'art africain, il y a les arts premiers qui sont une chose particulière. Aussi avec l'idée que peut-être les anthropologues, les ethnologues français ou allemands étaient mieux à même de faire l'histoire de ces civilisations que les scientifiques sur place, pour la bonne raison qu'il n'y en avait peut-être pas autant que dans les pays occidentaux, en tout cas. Mais cette guerre pour la possession des œuvres d'art, ces trophées d'une certaine façon, a un sens qui va au-delà de la justification scientifique. C'est aussi le scalp, d'une certaine façon, qui marque qu'on a gagné la guerre. On a privé les gens de quelque chose qui, au fond, est très important pour eux, qui a à voir avec leur imaginaire historique et, je dirais, sociétal et national.
Absolument.
National, faut bien le dire.
Avec la culture comme sang, le sang qui fait vivre les organismes sociaux que sont les peuples, les pays, les communautés. Alors là encore, vous avez lancé, c'est vraiment très vivifiant là, plusieurs pistes d'un coup, ça fait tout se met en lien comme dans un hyperlink là, en vous écoutant pour moi. Alors il y a évidemment cette idée qu'on accumule un capital culturel dans les capitales européenne, surtout au XIXe siècle, et puis ensuite occidentale, on accumule le capital culturel des autres pour fonder ses propres capitales à soi. Et ce capital culturel, c'est un capital symbolique, bien sûr. C'est non seulement le geste de dire à l'autre « tu ne pourras plus te former ailleurs que chez nous, si tu veux savoir qui sont tes ancêtres ». D'ailleurs, ça touche les œuvres d'art, mais ça a touché aussi pendant très longtemps les archives. Napoléon avait le projet d'un grand bâtiment des Archives de l'Europe qui a été beaucoup étudié par Yann Potin, Archives de l'Europe, qui devait réunir toutes les archives du Vatican, de Vienne, de Berlin, près de la Tour Eiffel. Vous voyez, et les peuples qui auraient voulu savoir à qui appartenait tel terrain à telle époque, pour des raisons très pratiques, de propriété, de testament, etc., auraient dû soit venir à Paris pour consulter leur propre mémoire, soit, et c'était le projet économique liée à ça, puisque capital symbolique et capital réel sont toujours main dans la main dans ces questions de déplacement de patrimoine, soit les peuples qui ne seraient pas venus à Paris pour consulter leur titre de propriété auraient payé une taxe pour qu'on leur en fasse un double. Donc il y a vraiment l'idée de capter la mémoire des autres, l'idée donc de trophée qui va avec ça, mais pas seulement. Il y a aussi, et en particulier au moment de la Révolution française, un vrai discours, comment dire, où il semble que tout le monde y croit, un vrai discours de l'universalisme qui permettra à chacun de trouver à Paris, dans des conditions de publicité radicale, donc dans des établissements publics ouverts vraiment à tous jusqu'au dernier clochard pratiquement, chacun aura l'accès à cette culture universelle. Donc il y a aussi une imagination d'une humanité qui se cultive à tous ses niveaux sociaux, sauf que dans cette imagination, elle se fait à l'intérieur de frontières qui ignorent le sort ou le sentiment ou les émotions ou le ressenti des dépossédés, qui eux n'ont plus ces objets-là. Et un des challenges dans toutes ces questions, c'est d'arriver à penser la beauté, comme vous le disiez, ou le savoir, ou le progrès même, pour reprendre des termes du XIXe siècle, dans nos musées, chez nous, et nous en avons, et nous continuons de bien en profiter. Mais le challenge, c'est d'arriver à penser ce qui se passe là où ces objets, ces archives, ces livres, ces manuscrits ne sont plus. Comment on vit en société, de génération en génération, l'absence de patrimoine? Et ça, enfin, comprendre la présence, c'est plus facile que de comprendre l'absence du patrimoine. Et réussir à écrire une histoire de l'absence du patrimoine, c'est un des projets qu'on s'est donné, pas seulement moi. Hein, on est toute une génération à travailler sur ces questions et ça s'accélère maintenant avec cet agenda politique. Mais c'est aussi une forme d'imagination au pouvoir, si vous voulez. Comment repenser des rapports moins inéquitables du partage du savoir, du pouvoir, de la richesse?
Ça, c'est un peu le... On va y revenir, mais j'aimerais bien que vous nous disiez un tout petit peu ce que vous en pensez, parce que c'est le principe même du musée, que donner accès à un maximum de gens
des connaissances, des objets qui sont aussi quand même des supports de connaissances, de compréhension historique et culturelle. Et d'une certaine façon, avec le développement du numérique, on pourrait imaginer qu'on a des musées numériques suffisamment puissants et développés et bien faits pour qu'au fond, ce patrimoine soit un patrimoine de facto numériquement, je dirais, universel. Et on pourrait les visiter de façon virtuelle, probablement aussi bien, et peut-être même dans des conditions meilleures. Il y a des gens qui regardent les matchs de foot à la télé et les voient mieux que s'ils sont sur le stade, par exemple. C'est pas mon cas, j'aime pas le foot, mais bon. mais il reste qu'on peut se poser cette question.
Alors évidemment, la question du musée 4.0 ou du patrimoine 4.0 est au cœur de ces questions-là, qui ne sont pas simples à régler, puisque dans nos musées, comme vous le disiez, c'est des lieux qui donnent accès à chacun au savoir, mais ils donnent accès en ayant construit tout un, j'allais dire, un fétichisme de l'original, de l'œuvre originale. Il y a un buste de Nefertiti, et il se trouve qu'il est à Berlin. Il y a un portrait de la Joconde, il est à Paris. Il y a les frises du Parthénon, originaires d'Athènes, qui sont à Londres. Donc ça, c'est leur lieu final, leur lieu d'arrivée, et comme vous le savez, les musées sont les terminus pour ces œuvres, puisque, en tout cas dans le droit français, quand une œuvre arrive dans le patrimoine national, elle devient inaliénable, elle ne sort plus. Donc elle est aliénée au sens où elle est sortie de chez elle une fois, où elle est passée entre plusieurs mains, mais arrivée au musée, hop, c'est la boîte finale. Voilà. Donc ces objets venus de toutes parts sont dans des lieux très concrets aujourd'hui. Et avec, comme vous le disiez justement, toutes les possibilités du numérique qui vont des lunettes 3D aux hologrammes en passant par les imprimantes en trois dimensions, on peut inventer toutes sortes de choses qui ont déjà été faites et qui marchent très très bien. La grotte Chauvet ou la grotte de Lascaux qui circulent en ce moment, elles sont en tournée dans le monde entier et elles représentent un grand succès. Donc c'est possible, ça marche et toutes les cultures d'ailleurs n'ont pas le même culte de l'original. Certaines sont très contentes ou font affaire avec des reproductions. D'ailleurs, c'est un des grands projets de notre collègue commun Edem Eldem, de dire qui vit à Istanbul et qui vit donc tous ces débats politiques sur ces questions de réclamation d'œuvres d'art, etc. Et lui, il dit, calmons-nous, faisons des reproductions parfaites en sculpture, enfin en 3D, et puis ensuite, on met tout ça dans un gobelet, on ferme les yeux, on secoue et on redispatche les originaux et les copies dans les différents musées du monde. Mais c'est exactement cette question de « on ferme les yeux et on redispatche » qui pose problème. Parce que toute l'histoire des musées, donc ayant donné une telle puissance à l'original, cette puissance est telle que tout de suite, si on dit à quelqu'un ou à une société ou à un peuple ou à une nation ou à la France, on va vous laisser la copie et l'original va repartir, ou à sens inverse, ceux qui ont l'original, le buste des Nefertiti, les marbres d'Elgin, etc., les gardes, et vous autres en Grèce ou en Égypte, ou en Afrique, vous récupérez les copies, on sent bien que ça coince. C'est pas si simple. Donc il y a...
C'est une question qui est liée à la valeur, ou c'est une question qui est liée à un fétichisme ?
C'est une question qui est liée à beaucoup de choses, à deux siècles au moins, et ou plus, de construction de l'idée d'authenticité, qui est liée au marché de l'art, évidemment. Je disais tout à l'heure, le capital symbolique, donc ces objets à fort investissement culturel, identitaire, psychologique, ils ont aussi une valeur sur le marché de l'art. C'est des objets qui, par leur venue au musée, sont devenus des sacs de dollars, enfin des caisses de dollars, parfois vraiment de très grands objets.
Donc, j'ai renoncé à m'acheter un Rembrandt.
Vous avez renoncé au Rembrandt. Oui. D'ailleurs, certains, comme le Louvre, ont été obligés aussi de faire des formules d'achat en partage avec d'autres musées pour pouvoir se financer le maintien d'un Rembrandt dans leur collection.
Mais on a le même problème pour les livres. Lire le texte est le même en poche et dans l'édition originale. Et pourtant, certains ont plus de plaisir à lire dans l'édition originale, peut-être parce qu'ils imaginent que des gens de l'époque l'ont touché. Ou... Comment est-ce qu'on explique ce fétichisme ? Si on élimine la question de la valeur, d'accord ?
Ok, on élimine la question de la valeur, on élimine la question de la matérialité.
Oui.
On élimine tout ce qui fait que si vous regardez une céramique antique, vos yeux traversent la surface et entrent en profondeur dans plusieurs... Alors, un chimiste saurait décrire ça mieux que moi, mais en tout cas, la constitution matérielle de la céramique, de la porcelaine, fait que on n'est pas face à une matière opaque, mais que l'œil traverse et qu'en fonction de l'âge, de l'ancienneté, du savoir-faire lié à ces objets, on a une qualité visuelle différente et que probablement, et c'est en tout cas ce que disent ceux qui craignent ces idées de reproduction mécanique, technologique, que même la meilleure technologie ne saura pas rendre, restituer cette matérialité très spécifique qui est la matérialité peut-être des temps anciens. Passer à travers donc les temps anciens, mais en plus toutes les marques de l'histoire qui sont déposées sur ces objets. Donc, on fait l'économie de la valeur, on fait l'économie de la matérialité, on fait l'économie des affects. Vous disiez tout à l'heure, certains préfèrent lire un livre dans l'édition originale. Pourquoi ? Parce que l'édition originale, bon, c'est pas tout à fait de l'affect, mais a une odeur. C'est entre la matérialité et l'affect.
Elle a été touchée.
Elle a été touchée. Elle a été peut-être, si c'est un livre ancien, découpée. Elle a fait l'objet d'un traitement qui fait qu'elle est parvenue jusqu'à nous, si c'est une édition ancienne. C'est-à-dire qu'elle a été peut-être aimée. Ou en tout cas protégée, elle n'a pas fini dans une cave, etc. Donc toute cette valeur, comment dire, historique qui se dépose dans l'œuvre est avec elle. Après, si vous avez envie de souligner, de faire des cornures, etc., dans votre papier, dans votre édition de poche, c'est une autre ergonomie de la lecture et les deux ne sont pas incompatibles. Donc,
dans le métro, il faut mieux le livre de poche.
Le livre de poche, ou si vous avez moins de 14 ans, vraiment le téléphone portable, c'est imbattable pour lire Victor Hugo.
Oui. Ça fait longtemps.
Voilà. Donc, il y a toutes sortes de facteurs et mon métier, ou en tout cas mon projet, ou ce qui est devenu mon projet avec d'autres collègues en coopération, c'est bien de dénouer tous ces fils de valeurs, différentes valeurs affectives, valeurs économiques, valeurs matérielles, valeurs politiques, etc., pour comprendre à quel point ces objets sont liés à notre destin commun en tant qu'humanité. Voilà.
On va faire une petite pause musicale, mais une fois qu'elle sera finie, je serais curieux de vous entendre sur, au fond, l'appropriation, parce que l'appropriation n'est pas seulement celle d'un objet. C'est-à-dire, par exemple, la Joconde, elle est devenue française d'une certaine façon. C'est-à-dire que priver le Louvre de la Joconde atteindrait aussi l'imaginaire national comme si c'était une œuvre originellement française. Donc, est-ce qu'il y a une limite de temps au-delà de laquelle on n'aurait plus le droit de reprendre ou... Vous voyez ce que je veux dire ?
C'est-à-dire
qu'on s'assimile, parce que finalement c'est universel de ça, le caractère universel est réel. On s'assimile quand même les œuvres, même celles qu'on a prises dans des conditions qui n'étaient pas forcément totalement morales, hein, pour dire les choses de façon simple. Mais on va s'interrompre une seconde, si vous le voulez bien, et nous reprendrons cette discussion après.
Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait sur les routes. À cette minute, un médecin alcoolique jurera au-dessus du corps d'une jeune fille et il dira « elle ne va pas me claquer entre les doigts la garce. À 7 minutes, 5 vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est -20 ou -5. À 7 minutes, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À 7 minutes, 2 policiers entreront dans une ambulance et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À 7 minutes, une vieille dame ivre-morte gémira seule au dernier étage sous son lit et ne pourra plus bouger. À 7 minutes, un Espagnol sera bien content d'avoir trouvé du travail.
France Culture, imagination, Alain Prochian.
Nous reprenons cet entretien avec vous, Bénédicte Savoie, qui est, je le rappelle, professeure d'histoire de l'art à l'Université technique de Berlin et titulaire de la chaire internationale Histoire culturelle des patrimoines artistiques en Europe, 18e, 20e siècle, au Collège de France. Et nous allons, si vous voulez bien, reprendre sur cette question de l'appropriation, mais pas au sens où c'est un vol, où la question, elle est, l'objet est devenu part de l'identité nationale, d'une certaine façon, même si le terme identité nationale n'est pas celui que j'aurais choisi spontanément. Voilà.
Ah, mais vous l'avez choisi spontanément et c'est bien un signe de quelque chose. Oui, vous parlez de l'appropriation intellectuelle, de l'appropriation culturelle. Donc un objet est là, il a été créé dans un contexte qu'on considère comme un autre contexte national. Il arrive et vous évoquiez tout à l'heure l'exemple de la Joconde qui est venue d'ailleurs en France dans des conditions tout à fait régulières et qui n'a pas été le fruit d'un pillage, pas du tout. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire de... Et c'était aussi votre expression, ça a été votre terme spontané de priver le Louvre, ou priver la France de la Joconde. Alors, est-ce qu'on la priverait d'abord, vraiment, de la Joconde? Peut-être que vous avez vu le clip de Beyoncé, le nouveau clip, là, paru il y a quelques jours, où on la voit en couple dans le Louvre, justement posée devant la Joconde.
Donc, non, devant la Victoire de Samothrace, au départ.
Aussi, absolument, allez-y, il faut le décrire, maintenant on est à la radio, justement.
Voilà, devant la Victoire de Samothrace, il y a plusieurs danseuses et qui ont beaucoup de bras, même si la Victoire, elle n'en a pas. Et effectivement, ça se termine devant la Joconde, où ils se posent en couple réuni d'ailleurs, puisque c'est une réunion de couple, après probablement une petite brouille, si j'ai bien compris l'histoire de la chose. C'est un clip qui est assez étonnant, je dois reconnaître.
C'est un clip extrêmement étonnant, et alors, parce qu'on évoquait l'appropriation, il a été vu par 18 millions de personnes en quelques jours, en quelques heures en fait, par un très grand nombre de personnes. Donc, c'est aussi une manière de s'approprier le Louvre, si vous voulez, sans y aller, ça existe aussi. Et cette marche dans le Louvre que propose à donc des auditeurs ou à des utilisateurs de YouTube, etc., et des médias sociaux, cette marche à travers le Louvre, elle est une manière de dire aussi, et c'est, me semble-t-il, ce que fait aussi ce clip, de dire « Ah, le radeau de la Méduse, qu'est-ce que ça nous raconte à nous, chanteurs de peau noire ? Pourquoi est-ce qu'il y a là des blancs, des colons au large du Sénégal? Comment ça marche ensemble? Même si on ne connaît pas l'histoire, on voit bien que sur ce tableau, des blancs sont devenus cannibales, qu'il y a une scène, et on sait par l'histoire du tableau qu'elle est liée à l'histoire des colonies françaises. À d'autres endroits, la Victoire de Samothrace, les prises de vue sont telles qu'on est obligé de regarder, de lever les yeux pratiquement plus haut pour voir Beyoncé que pour voir la Victoire de Samothrace. Cette déesse blanche et la déesse noire, si on veut, on peut inventer, on peut lire ces choses de cette manière-là, qui sont aussi des formes d'appropriation. Donc l'appropriation intellectuelle, elle est toujours multiple. C'est plusieurs voix au même moment qui se portent ou qui parlent ou qui font parler des objets ou des tableaux ou des œuvres d'art. Et le charme ou l'intérêt de tout ça, c'est quand toutes ces voix, celles qui viennent de la musique pop ou du rap, et celles qui viennent... de nos collègues du Collège de France depuis des générations, c'est-à-dire la voix du savoir archéologique, quand ces voix se mettent ensemble à travers les temps et que les objets leur servent d'objets de transfert, en fait. Et avec ça, on a en effet ensuite des... J'allais alors spontanément utiliser une expression qui ne va pas vous convenir du tout, mais tant pis, puisque vous avez parlé d'identité asiatique, on a à la fin des gloubi-boulgas, c'est-à-dire des amalgames considérables de sens, de projection identitaire. Et je pense vraiment où il paraît que déjà le Louvre maintenant fait des visites du clip. Enfin, c'est-à-dire que les visiteurs vont être amenés devant les tableaux du clip. Donc, et ça, c'est bien, c'est vivant. Ça nous permet de nous réapproprier dans chaque génération, à tout moment, des choses qui nous paraissaient parties dans l'espace des spécialistes, etc. Donc, cette polyphonie du musée est intéressante. Mais, et là, je suis obligée, vous avez eu la gentillesse au début de rappeler cette mission que nous a confiée à Felwyn Sarr et à moi Emmanuel Macron sur la restitution des biens africains. Tout ça ne fonctionne que si tout le monde, en effet, a accès à ces lieux de joie, de culture, de créativité, d'amour, de débat, etc. Or, il se trouve que dans le monde actuel, le monde est froid, on entendait tout à l'heure, on a eu, avec notre pause musicale, un égrenage d'horreur, en quelque sorte. Il se trouve que dans le monde dans lequel nous vivons, tout le monde n'a pas accès au musée, et parfois à son propre patrimoine, dans nos musées. Donc, il y a des barrières sociales, etc., mais il y a des barrières bien plus considérables, qui sont des barrières formées par exemple autour de l'Europe, qui empêchent des collègues maliens, y compris des directeurs de musées ou de grands intellectuels, d'avoir un visa pour venir voir leur patrimoine s'ils le souhaitent au musée du Quai Branly, ou même la grande ancienne ministre de la Culture, Aminata Traoré, ne peut pas venir toutes les 5 minutes contempler, ni toutes les 5 semaines, ni tout. Enfin, c'est extrêmement compliqué quand on voit ça, quand on reconsidère ces questions-là du côté de ceux qui n'ont plus les œuvres. Et voilà, j'étais avec Felwyn Sarr à Bamako il y a quelques jours. Penser le Louvre ou le musée du Quai Branly ou tous ces musées, et les musées allemands sont aussi en première ligne, les penser depuis Bamako, les penser depuis Dakar, les penser depuis Yaoundé, Douala, c'est les penser d'une manière qui appelle un désir d'équité. Un désir d'équité qu'il faut inventer. Et c'est là qu'on retombe dans l'imaginaire, ou dans l'imagination, ou dans l'imagination au pouvoir. Comment imaginer aujourd'hui, malgré ces décennies ou ces siècles d'évidence de l'universalité des musées, d'évidence de leur richesse, de leur qualité, de ce qu'ils nous font de bien, comment réinventer la relation, pour reprendre une expression de Felwyn Sarr, comment mettre l'imagination au cœur du patrimoine, du partage du patrimoine, pour que les choses soient peut-être moins injustes dans cette répartition et dans cet accès à la culture qui doit être un accès, en effet, qui est un droit de l'homme, en fait.
Tout à fait. Mais ça pose encore de nouveau des questions multiples. La question de la libre circulation des humains sur cette planète, évidemment une question centrale aujourd'hui. On voit ce qui se passe en Italie, on voit ce qui se passe, ce qui ne se passe pas en France. Les risques que Mme Merkel a pu prendre pour avoir ouvert, d'une certaine façon, les frontières et des risques politiques majeurs. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas dans une période qui doit nous inciter à un optimisme délirant sur la capacité d'ouvrir les frontières. Mais c'est pas tout à fait... Enfin, on pourrait retourner la question. C'est-à-dire qu'il y a eu le voyage des œuvres d'art, voyage contraint. Il suffit d'aller sur l'Acropole, voir les frises du Parthénon. Il faudrait plutôt voir leur absence. Mais il y a aussi eu, à un moment, le voyage des artistes. C'est-à-dire que si on se place dans l'Europe de la Renaissance, ou même postérieurement, même au fond les peintres américains qui sont tous venus en France, à Pont-Aven, dans les conservatoires français, au début de la naissance de la peinture moderne, je dirais américaine, pas contemporaine, depuis contemporaine. Je pense au livre de Annie Cohen-Solal, par exemple, « Demain, ils auront des peintres », que vous avez certainement dû lire. Eh bien, ces voyages des artistes faisaient partie de, entre guillemets, la vie d'artiste, si on veut. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas devenir un artiste sans avoir fait le voyage en Italie. Mm-hmm. Donc, il y a le voyage des œuvres. Mm-hmm. Il y a aussi le voyage des artistes qui vont peindre des œuvres dans un pays étranger. Donc, il y a une forme d'internationalisme quand même réduit à des pays très particuliers, qui est dans l'histoire même de l'art. L'art est international, pas uniquement parce que c'est une valeur universelle, mais aussi parce que ça a engagé des voyages au sens propre. Lisons Berenson, lisons tous ces gens-là. Donc, comment est-ce que ça peut se mélanger, ces deux types de voyages, celui des artistes et puis celui des œuvres?
En tout cas, à la fois le voyage des artistes et le voyage des œuvres dans cet espace restreint que vous nommez, qui est en gros ce que nous... Bon, ça change, les configurations changent, mais on parle là plutôt de configuration occidentale ou en tout cas plutôt est-ouest que nord-sud. Même si, bien sûr, il y a eu les grands voyages, les grandes expéditions d'exploration, etc. Mais parfois, ces voyages ne sont pas forcément symétriques. En tout cas, ce que ça nous dit, ces deux types de circulation, c'est que, et là je vous reprends sur votre expression spontanée de tout à l'heure, les identités nationales, c'est que les identités nationales ne sont pas des entités closes sur elles-mêmes qui seraient une juxtaposition, par exemple en Europe, d'une identité française avec une identité allemande, une identité italienne, une identité américaine et une identité bretonne. En fait, ces circulations qui ont toujours eu lieu depuis l'Antiquité et que, justement, certaines pièces dans les musées, les tablettes cunéiformes, etc., dont elles attestent hein, ces échanges intensifs depuis très longtemps, ces circulations sont bien la preuve que la culture, en général, c'est une hybridation. C'est-à-dire que même ce qu'on peut considérer comme une identité nationale ou qu'on peut revendiquer comme une identité nationale est le résultat de multiples circulations, d'échanges, même de démarcations par rapport à d'autres moments de l'histoire. Mais en tout cas, l'hybridation naît de la circulation, c'est-à-dire l'hybridation au sens d'enrichissement par le mouvement et le noyau, l'endroit central où se jouent nos cultures. Et c'est pour ça, donc, pour articuler la circulation des personnes qui ne se fait pas trop en ce moment, les personnes normales, avec celle des artistes. Et d'ailleurs, si vous me permettez ça, cette remarque, même les artistes ont du mal à circuler en ce moment. Pour faire une tournée, quand vous êtes un groupe de musique malien, pour faire une tournée avec une date à Berlin, une date à Londres et une date en Suisse, c'est extrêmement compliqué actuellement. Donc même les artistes ne circulent plus. Mais en tout cas, pour articuler la circulation des œuvres à celle des artistes par le passé et aujourd'hui, on peut dire que ce sont des circulations qui sont des épaisseurs de circulation qui parfois se croisent, parfois un artiste, un Durer laisse des œuvres à Venise, parfois il les remporte avec lui, etc. Mais que c'est ces circulations qui sont comme la circulation sanguine de notre humanité. C'est par ça que ça marche et je pense que pour vous qui êtes aussi un spécialiste des circulations, enfin des flux, il y a une sorte d'évidence où pour beaucoup de disciplines scientifiques, la circulation est au cœur de la réflexion. Et j'irais presque jusqu'à dire dans toutes les disciplines, mais peut-être que je m'avance un peu trop.
Non, mais c'est clair que la cité scientifique, pour l'appeler comme ça, est une cité internationale. Encore qu'on y retrouve les mêmes clivages, parce que je ne pense pas qu'on puisse parler international globalement comme ça. C'est un petit peu trop peut-être simplifié. C'est clair que c'est pas la même chose d'être dans un pays anciennement colonisé par la France ou par l'Angleterre, pas par l'Allemagne, puisque les Allemands ont eu très peu de colonies, comme on sait. Et c'est pas la même chose d'être français ou italien ou être français et malien. Il y a une barrière qui est beaucoup plus dure, d'une certaine façon. Donc, c'est un faux internationalisme, comme il y en a un faux aussi en science, dans toutes les disciplines scientifiques. Au fond, il y a des dominants, il y a des dominés, y compris à l'intérieur des pays qui sont soi-disant avancés. Donc peut-être que ça implique une analyse, le travail que vous faites et qui est très utile, c'est-à-dire penser la restitution des œuvres d'art qui font partie de l'imaginaire, alors pour éviter le terme d'identité, mais qui sont des imaginaires partagés au bout d'un certain temps, malgré tout. Donc rendre des œuvres qui appartiennent à l'imaginaire des pays où ces œuvres ont été fabriquées, construites, pensées, c'est reprendre aussi l'imaginaire, au bout d'un certain temps, des pays qui se sont attribués par de la prédation ces œuvres d'art, mais qui ont fini quand même par faire partir de l'imaginaire de ces pays-là. Donc ça pose des questions qui sont des questions compliquées sur même l'histoire des civilisations, l'histoire du monde. C'est-à-dire que c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes rapports avec les Italiens qu'avec les Congolais. Et là, vous allez avoir un petit peu de mal à mettre le curseur, parce que Vinci est venu en France, finalement. Hein, Vinci a travaillé, François Ier a fait venir Léonard de Vinci en France. Mais la Joconde, c'est quand même une œuvre italienne, puisque c'est l'œuvre de Vinci. Mais est-ce qu'on va rendre la Joconde aux Italiens? Bon, ça ne me dérange pas, honnêtement. Mais où est-ce qu'on va mettre la ligne qui permette de prendre une décision aussi juste que possible?
C'est une excellente question, la question du curseur que vous évoquez. Il semble, en avançant dans ces travaux, que le curseur doit être lié beaucoup à la question de la bonne foi. Il y a la bonne foi et on peut être de mauvaise foi, y compris sur ces questions-là. Donc, si on On les prend maintenant vraiment au sérieux. On entend toujours dire, depuis 1815, quand Napoléon a dû restituer à l'Europe les œuvres que la Révolution française et l'Empire napoléonien avaient réunies à Paris, quand il a dû les restituer et qu'il a été obligé par la force, ou que la France a été obligée par la force de restituer ces œuvres d'art, déjà à ce moment-là, on avait l'idée que ce patrimoine était un patrimoine partagé de tous. Dans un premier temps, on s'est dit qu'il faut le laisser à la France, parce que la France perdrait la face, et puis après tout, ces musées, c'est très bien. Et puis finalement, c'est, comment dire, c'est la frustration, le fait que Napoléon soit revenu pour 100 jours et repris sa place, qui a incité les États d'Europe à dire non, là, c'est fini. Voilà, ils ont exagéré. La première fois, on leur aurait laissé le Louvre. Là, il revient, il recommence. Non, on récupère nos œuvres d'art. Donc, à ce moment-là, la question s'est posée aussi où le directeur du Louvre à l'époque, Dominique Vivant-Denon, voyait le Louvre se démanteler devant lui. Il a écrit un très beau texte qui décrit l'agonie du Louvre, un texte qui donne la chair de poule. Mais parce qu'on y voit le créateur de ce grand musée face au démantèlement du musée. Mais le résultat, c'est que le Louvre a été vidé, mais il s'en est remis. Puisque très vite après, dès les années 20, c'est l'Égypte qui arrive au Louvre, puis c'est le Moyen-Orient, etc. Et puis le Louvre en 1900 est si plein que quelqu'un comme Paul Valéry, il l'appelle une maison de la cohérence, un capital accumulé qui ne sert à rien. Donc, on peut placer le curseur, on peut établir des critères, on peut dire jusque-là on rend, etc. Mais pourquoi on le fait ? Il faut réfléchir à la question de pourquoi on veut restituer. Qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut dire à nos collègues congolais, à nos collègues sénégalais, on fait un geste symbolique, celui de la restitution, qui ouvre une toute petite porte dans la remise à plat d'un rapport qui a été extrêmement dissymétrique jusqu'à maintenant. Donc c'est des mouvements symboliques. Est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'on souhaiterait, par une restitution de ce genre, dire aux Italiens, on a envie de réinventer la relation avec vous ? Peut-être, peut-être pas. Mais restituer, c'est pas simplement un geste mécanique, c'est, il faut réfléchir à pourquoi on veut le faire. Et c'est pour ça que l'imagination est là. L'imagination au sens politique du terme. La question, c'est où est-ce qu'on envoie la balle ? C'est la portée balistique de la chose. C'est pas seulement vider des espaces muséaux pour en remplir d'autres. C'est pas une histoire de vase communicant. C'est une question de projet d'humanité.
Eh bien, nous allons reprendre cette discussion dans un moment, si je voulais bien, après une deuxième pause musicale.
Mon meilleur ami est un chien. On peut lui parler, mais il ne vous répondra pas. Il aurait préféré avoir une femme comme amie. Une femme attentive, belle et sûre, qui travaillerait dans l'éducation nationale. Ils auraient des regards que nous n'avons pas, que nous n'avons plus. Et ils parleraient d'amour et de choses inouïes. Avec moi, ça n'est plus possible. Ça fait trop longtemps maintenant. Alors certains jours, je préférerais expliquer mon œuvre à un lièvre mort. Mais ça n'est pas possible parce qu'il est déjà occupé avec un type qui lui explique la peinture. Alors, je m'ennuie sérieusement. Je m'ennuie et mon emploi du temps vous appartient complètement. Alors, racontez-moi ce que vous faites là-bas. Il doit y avoir du soleil, et vous mangez des fruits rouges, et vous devez vous baigner souvent. Je suis sûr que vous êtes tout nu. Je suis sûr que vous êtes tout nu. Je suis sûr que vous êtes tout nu. Je suis sûr que vous êtes tout nu.
Je suis sûr. France Culture, Imagination, Alain Prochian.
Cher Bénédicte Savoie, nous allons donc maintenant reprendre cet entretien sur au fond, la question de à qui appartient la beauté, malgré tout, et en quoi elle peut constituer un imaginaire collectif au niveau d'une nation, mais peut-être au niveau du monde. C'est quand même la question qui nous est posée. Et aussi, historiquement, dans la constitution des imaginaires historiques, où est-ce qu'on peut mettre la barre pour savoir s'il faut ou s'il est préférable de ne pas restituer des œuvres d'art. Et le sens que ça a, c'est-à-dire, j'ai bien entendu ce que vous disiez tout à l'heure, ça a un sens politique d'une certaine façon, de reconnaissance d'un mauvais comportement, dirais-je. Le cas du colonialisme est quand même typique, en particulier quand on parle des arts premiers, quand on parle des arts africains, notamment. Mais à l'inverse, la discussion que j'aimerais avoir, c'est le fait d'avoir tous ces musées, y compris avec des œuvres qui ne sont pas forcément au bon endroit, hein, ça met aussi en valeur les capacités intellectuelles, les capacités artistiques de peuples que souvent, dans notre ignorance, quand je dis nous, je veux dire nous autres, dans des pays qui se croient plus civilisés que les autres, que dans notre ignorance, on pense peut-être qu'on regarde avec un regard de colon. Et je pense que ce qui s'est passé autour de Picasso et de l'introduction des arts premiers, et même d'avoir mimé les arts premiers, quand il prend le guidon de bicyclette, qu'il le met sur une selle et qu'il fait un minotaure, ou un taureau plutôt, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Il a réinventé un geste qui vient quand même de sa contemplation, de son admiration pour les arts premiers. Donc c'est peut-être plus compliqué, cette relation qu'on ne le croit, dans la mesure où, finalement, quand je vais au Quai Branly, eh bien, mon regard sur des pays que je ne connais pas quitte un certain nombre de pensées presse-boutons ou de pensées simples que tout un chacun peut, à un moment ou à un autre, avoir.
Merci beaucoup. Là encore, je voudrais revenir juste un instant sur votre résumé de la situation en disant si on restitue à un pays africain des œuvres d'art, on reconnaît un mauvais comportement. On peut le lire comme ça et ça irait du côté de la repentance, etc. On peut le lire autrement. On peut dire qu'on peut-être on reconnaît que des choses se sont passées sous des régimes juridiques qui ne sont plus ceux avec lesquels on s'identifie aujourd'hui, mais on peut dire aussi ok, on reconnaît peut-être un passé qui s'est mal passé, mais surtout, on s'engage dans l'avenir. C'est-à-dire, c'est moins la reconnaissance d'un mauvais comportement que un désir de meilleur comportement dans l'avenir, si vous voulez. On peut inverser ça et ça donne une autre qualité d'amour à la restitution, qui n'est pas une espèce de geste de bon, vous avez gagné, on vous rend et on reconnaît qu'on a été mauvais, mais plutôt... On a tellement profité, et avec ça j'arrive dans le deuxième pan de votre question, on a tellement profité, nos artistes se sont tellement enrichis, épanouis, nous ont tellement bluffés au contact avec vos richesses que nous considérons maintenant, après 100 ans, 150 ans, qu'on en a tellement profité que maintenant, à vous, à vos artistes, de pouvoir facilement être en contact avec ces objets. Voilà. Donc ça c'était la transition. Oui, bien sûr, le musée, pour reprendre la devise du Collège de France, qui est un lieu où on peut observer ou voir le savoir en train de se faire, le musée, c'est l'un des endroits où on voit le mieux la culture en train de se faire. C'est-à-dire qu'on voit un jeune Picasso aller au musée d'ethnographie, au musée du Trocadéro, ou avant, et plus tard, d'autres générations d'artistes aller au musée de l'Homme, et être électrisés, comme s'ils avaient eu une insémination, en quelque sorte. Enfin, il se passe quelque chose entre leur regard, leur perception physique d'un objet dans une salle, qui fait que, rentrant à l'atelier, peut-être tout de suite ou peut-être dans un temps ultérieur, ils vont produire autre chose qui finira un jour aussi au musée. Et on a la culture en train de se faire. C'est-à-dire que les musées, en effet, sont des espaces de germination, de fécondation, de germination, d'invention de nouvelles formes, de nouvelles formules aussi, de nouvelles images, de nouveaux imaginaires qui se font là au contact d'objets qu'on peut considérer, ça c'est un topos dans la littérature sur les déplacements patrimoniaux, comme des ambassadeurs. Ce sont les ambassadeurs d'autres cultures et les musées seraient comme quelque chose comme les assemblées transnationales où seraient présents tous les ambassadeurs. Des espèces d'UNESCO d'objets ou d'ONU de l'objet où tous les pays envoient leurs représentants. Oui, On l'a vu comme ça, c'est une partie de la belle face des musées, et incontestablement, les musées ont cette particularité. N'empêche que, s'il n'y a pas une base de consentement, si les ambassadeurs sont des otages et pas des ambassadeurs, s'ils n'ont pas été envoyés, s'il n'y a pas eu ce geste de désir d'être représenté, dans ce cas-là, il faut en reparler en tout cas. On peut redemander, est-ce que vous êtes d'accord pour que vos ambassadeurs, qu'on a pris il y a 150 ans, soient maintenant chez nous? Et en plus, l'avantage et aussi le risque avec ces objets, c'est que c'est un énorme avantage, ce sont des ambassadeurs muets. C'est-à-dire qu'on leur fait dire ce qu'on veut. Et la question de que fait-on dire aux objets, c'est-à-dire du contrôle sur leurs paroles ou sur leur interprétation, pendant très longtemps, les musées, ça change, heureusement, et ça change beaucoup en ce moment en particulier. Souvent, les musées étaient une sorte d'instance qui avait le monopole sur le sens des objets. C'est le musée qui disait au public, voilà comment il faut le voir, voilà comment il faut le penser, voilà comment il faut le comprendre.
C'est de plus en plus comme ça, avec les petits appareils qu'on vous donne et on vous explique toutes les œuvres, et c'est insupportable.
C'est comme ça, si vous utilisez les petits appareils, si vous allez sur YouTube regarder le clip de Beyoncé, elle vous raconte une autre histoire que vous pouvez aller chercher vous aussi. Je crois, moi, que les musées ont compris qu'il y avait un changement de paradigme. Enfin, ils l'ont compris certains il y a beaucoup plus longtemps et d'autres sont en train de le comprendre. Et puis, un changement de paradigme au sens où ce qu'on appelle, dans le domaine allemand en tout cas, c'est vraiment le participatif, entre aussi dans le sens qu'on donne à l'objet. Donc, l'objet n'a plus un sens figé, noté dans le catalogue, dans le cartel, etc. Mais il a tous les sens qu'on voudra bien lui donner à différents moments. Et
que telle personne, que tel individu voudra bien lui donner, parce que c'est très idiosyncrasique cette affaire. C'est-à-dire qu'on voit au-delà de l'objet en fonction de ce qu'on est soi-même d'une certaine façon. Donc c'est vraiment de personne à objet que les choses se passent.
Absolument, de personne à objet. Et puis même pour une personne, ça change au cours des âges
bien
de la
sûr,
vie.
Bien sûr, on n'est jamais la même personne.
On n'est jamais la même personne et l'histoire du monde n'est jamais la même. Ça ne vous fait pas le même effet de voir des antiquités syriennes au musée du Louvre ou dans les musées de Berlin, la chambre d'Alep par exemple. C'est une reconstruction d'une salle qui a été rapporté dans les années 20 à Berlin et qui est, voilà, si vous l'avez vu il y a 15 ans, vous vous disiez, tiens, c'est intéressant, c'est boiserie, c'est beau, c'est intéressant. Maintenant, quand on les voit après la destruction des villes syriennes ou la destruction d'Alep, même si on est resté la même personne, l'histoire du monde a tant changé que cet objet dans ce musée, aujourd'hui, a une signification et qui vous fait fondre en larmes.
Un jour, je ferai un cours de neurosciences. On ne se baigne jamais deux fois dans la même personne, j'ai dit que savoir.
Très beau, merci. Ni dans le même musée.
Voilà. Ce qui m'amène peut-être à vous poser une question, c'est-à-dire que, au fond, en vous écoutant, je me rends compte que, enfin, je me trompe peut-être, mais il n'y a pas de contenu, je dirais, éthique ou moral dans la démarche que vous faites. Et c'est peut-être pour ça qu'au lieu d'utiliser des termes comme appropriation, pillage, vol, vous vous bornez à penser au mouvement de transport, à la translocation des œuvres. Est-ce que je me trompe? Et si je me trompe, dans quelle mesure est-ce que je me trompe? Parce que c'est quand même un point important. C'est-à-dire que je suis sûr qu'au moment où on va décider, si on décide de restituer certaines œuvres au pays qui ont vu leur naissance à ces œuvres, ces discussions vont arriver de façon tout à fait dramatique, probablement dans le domaine public. Et c'est bien de s'y préparer, d'avoir pensé la chose en amont.
Bon, alors, je ne peux pas être d'accord avec, avec la manière dont vous le formulez, cette idée. Bon, alors, elle ne veut pas s'engager éthiquement, moralement, donc elle se borne à penser les circulations.
Je n'ai pas dit que c'était mal.
Non, vous avez dit « se borne ». Alors,
oui,
je retiens « borne ». Se borner à étudier les circulations, ça voudrait dire ne pas se mouiller. On ne se baigne jamais deux fois, etc. Or, je pense que, par exemple, qualifier ces pillages, spoliations, saisies révolutionnaires, trophées, etc., les qualifier, comme j'essaye de le faire, de translocation, c'est-à-dire leur apposer un terme plus neutre. Mmh. C'est pas de la lâcheté, c'est signaler qu'on a compris que dans le mot pillage, par exemple, ou dans le mot trophée, ou dans le mot conquête militaire, il y avait toute une charge idéologique que le mot transporte. Et que si on veut en parler entre être responsables qui sont des collègues, des historiens de différentes disciplines qui ont envie de penser l'avenir en étant historiens, faire de leur discipline une discipline qui est prospective, qui permet d'inventer de nouvelles formes pour un avenir qu'on espère plus juste, meilleur, etc. Que si on veut réussir à parler de ces choses-là sur des sujets aussi sensibles, il faut par exemple faire attention aux mots. Et que si dans un contexte, par exemple, entre les Allemands et les Russes, vous utilisez le terme Russes, trophées. Les Russes continuent de parler des trophées pris par l'armée rouge en 1945 en Allemagne. La discussion s'arrête dès que le mot trophée a été prononcé. Si vous êtes français et que vous allez, dans un contexte européen, parler des conquêtes artistiques de la Révolution française, conquête artistique, alors que dans tous les autres pays européens, ça s'appelle des furti, donc des vols en Italie, ou du Kunstraub, de la rapine artistique en Allemagne, etc., dans les autres langues, tout de suite vous bloquez le dialogue. Donc, choisir des termes qui permettent de déplacer les lignes de constriction historiographique nationale, de ces violences des mots, pillage, spoliation, non pas pour baigner tout ça dans une crème qui aurait l'avantage d'éviter de penser les violences. C'est pas le but. C'est pas de dire translocation à la place de pillage et comme ça on ne pense pas les violences. L'intérêt de dire translocation et d'étudier les translocations, c'est que on peut en parler ensemble. C'est-à-dire qu'on peut mettre en dialogue les points de vue, les perspectives des dépossédés ou de ceux qui considèrent l'être et de ceux qui sont les heureux possesseurs de ces objets. Et penser les mouvements, c'est une manière de se mettre en marche ensemble, si on peut le faire de manière dialogique avec nos collègues africains, avec nos collègues d'autres pays. C'est une manière de le faire. Et bien sûr qu'on arrive ensuite au sujet qui fâche, la colonisation, l'extermination des familles juives d'Europe, etc. Bien sûr qu'on y arrive. Mais si d'emblée les mots nous empêchent d'entrer en dialogue, alors là, on n'arrive à rien, puisque c'est le dialogue, c'est la parole agissante qui va nous permettre peut-être de nous réconcilier avec ces patrimoines qui en ce moment, et pas seulement en ce moment, qui depuis un certain temps, y compris dans nos pays, suscite chez certains un malaise au musée. Beaucoup d'ouvrages portent ce titre. Et puis, j'évoquais tout à l'heure Paul Valéry dès les années 20. Paul Valéry sort du musée en disant, il a écrit un article tout de suite qui s'appelle « Le problème des musées ». Il s'y sent mal. Il y a trop de choses. Ça s'est accumulé. C'est une cacophonie pour lui. Et il compare les musées à des cimetières. Voilà. Donc, cette crise des musées est longue. Elle existe depuis longtemps.
C'est pas la même crise, quand même, là.
C'est pas exactement la même crise, mais c'est la question de l'accumulation d'un capital. D'un capital qui entre au musée et qui n'en sort plus jamais, c'est-à-dire la boulimie d'objets qui est liée à des conditions d'appropriation que nous, aujourd'hui, en 2017, nous regardons d'un autre œil que lui en 1920, mais le résultat sur nos visiteurs de musées, sur nous-mêmes, c'est que cette boulimie peut paraître inquiétante à certains, comme à un président de la République de moins de 40 ans.
Il y a une boulimie du visiteur, c'est-à-dire qu'on peut très bien aller au musée pour ne voir qu'une petite chose qu'on a envie de voir.
Bien sûr, bien sûr. On peut, c'est la version sushi.
Voilà, la version sushi. Pour peut-être clore cet entretien, cher Bénédicte Savoie, peut-être une façon peut-être plus joyeuse de voir les choses. Supposons que dans un monde idéal, où tout le monde puisse circuler, où l'universel règne et la paix aussi qui va avec, est-ce que le retour d'une œuvre d'art dans son lieu de production lui donne une valeur différente dans la mesure où elle est là où elle a été créée? C'est-à-dire, est-ce que c'est sa place, au fond, indépendamment de toute autre considération sur laquelle nous venons de nous étendre de façon peut-être un petit peu longue, peut-être, mais je pense que c'est important quand même d'éclairer votre mission, d'une certaine façon. Mais peut-être que finalement, un masque africain en Afrique, et pas dans la région d'Afrique où il a été créé, a plus de valeur, entre guillemets, qu'au musée du Louvre.
Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il faut penser les restitutions comme le passage d'une immobilité des œuvres dans nos musées à une autre immobilité qui serait celle de leur lieu d'origine. Il ne me semble pas, après les discussions qu'on a menées, que c'est la perspective de nos collègues africains. Leur idée, c'est de faire circuler ces œuvres aussi, ensuite. et d'en voir d'autres, et de voir pourquoi pas un Delacroix, et pourquoi pas la Joconde, et pourquoi pas des Picasso au musée de Cotonou, si vous voulez. Mais la question, c'est la question... Dans ce monde idéal, ce qui serait bien, c'est qu'il n'y ait pas un monopole de la mobilité. C'est-à-dire certains, un petit nombre, qui décident de ce qui circule, quand ça circule, où ça circule.
Mais les techniciens vont arriver. Ils vont dire, ah, on ne peut pas faire circuler la Joconde, elle est trop fragile. Les assureurs vont venir vous dire, oh là là, vous imaginez l'argent qu'il faut payer pour faire circuler les œuvres. Vous allez avoir tout de suite des avis qui sont d'un ordre... Autre, non ?
Peut-être que ces avis arriveront, mais vous me proposiez d'imaginer un monde idéal où la circulation des personnes, des biens, des idées ne serait pas réglée par quelques-uns, mais par une multiplicité d'acteurs. Et peut-être qu'on n'est pas si loin de ce monde idéal, mais il faut y travailler un peu, il ne va pas arriver du ciel. Mais et écoutez, donc c'est à nous, intellectuels, ou en tout cas à qui on a donné cette mission, ou qui par le hasard de l'histoire se sont retrouvés dans ces positions, à un moment de notre vie, de dire ben, je mets les mains dans le moteur et je tente quelque chose.
Ben, l'idée que nous ne sommes pas très loin d'un monde idéal me paraît tout à fait merveilleuse, même si vous me permettrez d'avoir quelques doutes.
C'est vous qui avez commencé.
Non, je peux dire, imaginons. Donc, cher Bédissava, je suis vraiment content d'avoir eu cet entretien avec vous. Je pense que c'était intéressant. En tout cas, moi, j'y ai appris beaucoup de choses.
Tout le plaisir est pour moi.
Et puis, je rappelle que vous êtes professeur d'histoire de l'art à l'Université technique de Berlin. Vous êtes aussi professeur du Collège de France sur une chaire internationale. Et surtout, en fait, que vous avez été chargé par le président de la République de participer à une étude des conditions de restitution aux pays africains d'œuvres d'art actuellement conservées dans les musées français. Et je vous remercie infiniment d'avoir passé cette heure avec nous.
C'est moi qui vous remercie beaucoup.
Imagination par Alain Prochian. Prise de son, Éric Boisset. Réalisation, Christine Robert. Assistée de Delphine Derbier, stagiaire.